Chapitre 10e. Les frères et les sœurs de Jean, qui l'aimaient malgré son abandon, éprouvèrent, en apprenant qu'il avait été emmené, cette terreur qui saisit les gens de la campagne aussitôt qu'ils sont en contact avec la justice. Ils coururent d'abord à Amboise, où on ne leur permit pas de voir le braconnier. Les gendarmes montaient la garde autour de la prison où on avait enfermé les captifs, et les familles de paysans et d'ouvriers qui avaient quelques-uns des leurs sous les verrous erraient d'un air désolé le long des murs. La ville avait un aspect morne. On s'entretenait partout des événements de la journée. La mort tragique de M. de Puiseux remplissait les esprits de frayeur, et l'exagération se mêlant à l'effet légitime d'une si brusque et si menaçante catastrophe, on se demandait avec effroi si la barbarie était aux portes et le volcan révolutionnaire à la surface du sol. D'Amboise, les frères de Jean se rendirent chez Mme de Puiseux, qui les reçut, malgré la douleur dont elle était accablée. Elle parut étonnée à la nouvelle de l'arrestation du braconnier, mais elle comprit que dans la position exceptionnelle où Jean s'était placé par le vagabondage de sa vie, il n'y avait pas grand-chose à faire jusqu'au jour où la justice s'instruirait contre les prisonniers. Elle promit au fermier Desbordes d'intervenir dans ce moment-là et de le faire énergiquement. Les fermiers s'en retournèrent à demi consolés. Ils savaient que Madame de Puiseux ne promettait jamais en vain. Clairette était restée auprès de Berthe. Mais Clairette ne vivait plus depuis que Jean était aux mains des gens du roi. Berthe s'efforçait en vain de la consoler. Aussitôt que Berthe tournait la tête, elle se remettait à pleurer. La cour royale de Tours évoqua l'affaire et demanda d'amener, mire sous la main de la justice, une foule d'individus compromis dans les troubles antérieurs, et en dernier lieu, dans le sac de la ferme Desbordes, qui avait précédé de si peu d'instants l'attaque du château. L'instruction avait retenu en prison la plupart de ceux qui s'y trouvaient, et Jean parmi eux. Les antécédents du braconnier étaient de ceux que la justice n'oublie pas. S'il n'était pas directement compromis dans la sédition à la suite de laquelle M. de Puiseux avait péri, il avait fait partie du rassemblement, on l'avait arrêté sur le lieu du crime, et en somme, il avait tué un homme. Il n'en fallait pas tant pour retenir en prison un braconnier à la poursuite duquel toutes les brigades de gendarmerie étaient lancées depuis longtemps. Le jour où l'affaire des troubles de Rocheblanche arriva devant la cour d'assises, une foule immense remplissait les abords du palais de justice à Tours. L'instruction établit que Jean avait accompagné le rassemblement depuis la ferme Desbordes jusqu'à Rocheblanche, qu'il avait assisté, sinon comme acteur, au moins comme spectateur, à l'envahissement du jardin et aux scènes qui en avaient été la conséquence jusqu'au moment où était parti le coup de fusil qui avait tué M. de Puiseux, et qu'il avait été vu la veille du jour où le crime fut commis en conférence dans le Préaunin avec le Charron et ses amis. Le bandit avec lequel Jean s'était rencontré dans la prison d'Amboise avait tenu parole et chargeait le braconnier le plus qu'il pouvait. En présence de cette déposition, le ministère public doutait tout au moins de l'innocence de Jean Guillard. L'aventure de la chasse au sanglier n'avait jamais été clairement expliquée. Le bien a toujours beaucoup de peine à se faire admettre. Le mal, au contraire, entre tout seul dans l'esprit de beaucoup de gens. Il était resté cette pensée que le braconnier avait visé le cavalier, bien qu'il eût atteint le cheval. En diverses circonstances, on avait entendu M. de Puiseux s'exprimer un peu vivement sur le compte de Jean, et M. de Gaillefontaine blâmer hautement sa conduite. Ces circonstances, ces propos garantis par des témoins dignes de foi et recueillis par la justice, avec cette patience qui fait la force de ces investigations, pesait d'un grand poids dans le procès. Il était clair que le Charron avait dû parler à Jean du projet d'attaque si malheureusement réalisé le lendemain. Ce fait semblait démontré par la déposition d'un berger qui avait surpris la conférence et encore par le témoignage de l'un des accusés. Si Jean Guillard avait eu connaissance du crime, pourquoi n'avait-il pas averti la justice? Quand le président passa à l'interrogatoire de Jean, un sentiment de vive curiosité se manifesta dans l'auditoire. Jean rendit compte de l'emploi de sa journée avec une précision mathématique. Ce qu'il avait déjà dit au juge d'instruction, il le répéta devant la cour, et le débat s'établit entre lui et le camarade du Charron qui soutenait que Jean avait eu l'idée de l'attaque, en avait conçu le plan et n'avait abandonné la sédition qu'au moment où les gendarmes furent signalés. Quant au sac de la ferme Desbordes, il ne prouvait pas grand-chose, au dire du bandit, sinon que Jean avait voulu détourner les soupçons. On avait pu voir que les assaillants s'étaient bornés au pillage de quelques provisions et à commettre de faibles dégâts. Jean répondit à ces accusations spécieuses par le récit fidèle de ce qui s'était passé entre lui et le charron dans leur entretien du pré au nain. Il raconta comment un coup de feu lui avait été tiré dans le milieu du bois par ce misérable et fit voir sur la crosse de son fusil l'empreinte de la balle. Comment, à la suite de cette tentative qui prouvait que le charron n'avait pas renoncé à ses projets, il était allé prévenir M. de Puiseux. Comment celui-ci avait négligé de prendre aucune menace de prudence, après quoi, lui, Jean, s'était retiré du château et avait passé la nuit à la ferme. Le matin, il avait déjeuné chez Clairette, et c'était alors que l'arrivée des séditieux au bord lui avait fait concevoir les plus vives craintes sur les hôtes du château. « Mon frère, ajouta-t-il, était allé à Amboise prévenir la gendarmerie. Clairette avait couru à Rougeblanche. À moi seul, je ne pouvais pas arrêter cette foule que le pillage de la ferme ne retint pas un quart d'heure. Je la suivis, me promettant de prendre conseil des circonstances. Un instant, j'eus la pensée de tuer le charron d'un coup de fusil. C'eût été un assassinat, et celui-là mort, il en restait 50 non moins furieux. J'attendis. Vous savez le reste. Je m'étais glissé auprès du charron, tout prêt à agir. Lorsque le coup de fusil partit, M. de Puise tomba, et je m'élançai en avant. Peut-être ma présence a-t-elle contribué à sauver Mme de Puiseux en donnant à la gendarmerie le temps d'arriver. Si cela est, je ne regrette pas d'être assis aujourd'hui sur le banc des accusés. » Ce récit soutenu des dépositions de Clairette et d'Antoine produisit un excellent effet. Cependant, quelques doutes restaient encore dans l'esprit de certains jurés qui, en leur qualité de propriétaires, supposaient assez volontiers qu'un braconnier est capable de tout. Le ministère n'abandonnait pas l'accusation. Ce fut alors que Madame de Puiseux fut appelée à déposer. Quand elle parut au milieu de l'enceinte, un profond silence s'établit dans l'auditoire. Sa déposition allait entraîner l'acquittement ou la condamnation de l'accusé. Elle déclara d'une voix ferme qu'elle avait eu connaissance de la visite faite à son mari par Jean, sans pouvoir préciser l'objet de cette visite. Bien qu'elle ne mît pas un instant en doute la vérité du récit de Jean Guillard, elle en avait la preuve par le soin qu'il avait eu d'envoyer Clairette au château au moment où les émeutiers s'étaient montrés au bord. Répondant ensuite aux questions du président sur les accusations que M. de Gaillefontaine avait, à diverses reprises, lancées contre Jean, elle releva sa tête animée par l'émotion. « Je répondrai avec d'autant plus de liberté, dit-elle, que mon père, avant de tomber, a tendu la main à Jean Guillard. Si mon père vivait encore, il ferait avec plus de force ce que je fais à présent. Il vous dirait que Jean a pu être quelque temps égaré, mais que jamais la pensée du crime n'a souillé son cœur. Mon père était un homme rigide, mais c'était un homme sincère. Il condamnait le braconnage de Jean, il ne condamnait pas sa moralité, et cette main qui lui a tendue m'indique assez mon devoir. « Jean, reprit-elle en s'adressant à l'accusé, je veux que tout le monde apprenne ici. Quelle estime et quelle amitié je vous ai vouée. Une fois déjà, vous avez sauvé M. de Puiseux de la mort. Vous avez voulu sauver mon père, vous m'avez sauvé moi-même. Deux enfants, qui venaient de perdre leur père, vous doivent de n'être pas orphelins. Je vous ai toujours connu bon, honnête, franc et dévoué. Je ne vous parlerai pas de reconnaissance, mais je vous dirai, Jean, quel que soit le sort qui vous attend, vous êtes et vous resterez, mon ami. » Emporté par l'élan de son cœur généreux, Berthe avait parlé d'une voix émue et le front haut. Son beau visage, à demi tourné vers l'auditoire, brillait de cet éclat que donnent les nobles pensées. Un frémissement parcourut l'assemblée et le cercle des jurés. Quelques applaudissements, subitement réprimés, éclatèrent, et l'on comprit que la cause de Jean était gagnée. Quant au braconnier, ému jusqu'au fond de l'âme, il se couvrit le visage de ses mains, bien moins touché de l'acquittement que ses paroles lui promettaient que des paroles de Berthe en elle-même. Lorsque Berthe revint s'asseoir à son banc, Clairette, toute baignée de larmes, lui prit les mains et les baisa. Le ministère public abandonna l'accusation et Jean fut mis en liberté. Le jour même du verdict qui le rendait à sa famille, Berthe fit appeler Jean à Rougeblanche. « Mon ami, lui dit-elle, tandis que Clairette, ne sachant à qui confier sa joie, mangeait les trois enfants de baisers, j'ai un service à vous demander. À moi ? S'écria Jean. « Mais ne suis-je pas tout à vous ? Prenez garde, Jean, c'est une chose grave. La désirez-vous ? Il ne s'agit pas de savoir ce que je désire, mais bien ce que vous pourrez faire. Et ce que je vais vous demander dérangera toutes vos habitudes. Je n'en ai plus. Eh bien, reprit Berthe, s'il en est ainsi, vous consentirez bien à leur apprendre la direction de mes affaires. Oh, ne vous hâtez pas de me remercier, s'écria Berthe en voyant le geste du braconnier. C'est une rude besogne dont je vous charge là. Des fermages à toucher, des baux à réviser, la surveillance de tous les travaux, une infinité de détails auxquels je n'entends rien. C'est à peine si vous aurez le temps de chasser avec un permis. Cette bonté touchante, qui réclamait un service pour imposer des devoirs, n'échappa point à Jean. « Faites de moi ce que vous voudrez, » dit-il d'une voix pénétrée. « Ainsi vous acceptez ? Merci. C'est un grand service que vous me rendez sans vous en douter. Une femme ne peut pas diriger des affaires qui veulent, pour être bien conduite, qu'on soit au champ la moitié du jour. Et d'ailleurs, j'ai deux enfants. Je prétends les élever moi-même avec celui de Clairette qui ne les quittera jamais. » Les regards de Jean s'arrêtaient avec admiration sur Berthe. « Voilà qui est bien entendu, » poursuivit-elle. « Nous allons nous partager le gouvernement de ce petit royaume. Vous aurez le département des affaires extérieures et moi, je garderai l'intérieur. » « Les ministres prendront ce qu'ils voudront dans le budget de l'État, » ajouta-t-elle avec une délicatesse exquise qui sauvait la question d'argent. « Et quand devrais-je entrer en fonction ? » dit Jean. « Mais demain, » répondit Berthe en pressant la main du braconnier.